Chapitre 4, 11-12 ans, les prémices. Ce n'est plus tout à fait un enfant, et pas encore un ado. On l'appelle le pré-ado, mais on ne sait pas trop où le ranger. Lui-même ne le sait guère. Ses copains et copines deviennent de plus en plus importants, il se sent grand et petit, tout à la fois confiant, sûr de lui et plein de doutes. Il cherche à se démarquer des cadets en établissant son pouvoir sur eux. Il regarde ses aînés adolescents avec envie, admiration ou condescendance. Il se voit parfois plus mature qu'eux. Les comportements du grand frère ou de la grande sœur lui paraissent excessifs et déplacés. Elle ne devrait pas se comporter comme ça avec maman, mais il commence à les copier. Il part au collège en t-shirt malgré le froid. Imaginons une scène du quotidien. Un ado se prépare pour aller au collège et décide de sortir sans veste ni manteau. Sa mère l'interpelle. « Tu ne vas pas partir comme ça !» Mais sa réponse est sans appel. « J'ai toujours trop chaud !» Pas question de me trimballer au collège avec un anorak, j'aurais trop la honte. J'ai plus besoin d'être couvé comme un poussin. Des chercheurs ont inoculé un virus à des volontaires et montré que des câlins et gestes affectueux de leur entourage augmentaient leur résistance au rhume de 30%. Nombre de tribus vivent nues ou presque dans des contrées au climat rigoureux. Comment font-elles ? Leur corps est encore porteur de graisse brune, une graisse fluide qui protège du froid comme du chaud. Les nourrissons ont beaucoup de cette graisse brune qui leur permet de s'adapter au passage des 37,5 degrés dans l'utérus aux 24 degrés extérieurs. Les adultes occidentaux n'en ont presque plus. La sédentarité et la nourriture sucrée chargée de mauvaises graisses du monde industrialisé font peu à peu disparaître cette graisse brune au profit de graisses blanches, nos petits capitons, et jaunes, comme les poulets d'élevage. Il n'a jamais froid, c'est sûr. Il bouge plus que nous, et félicitons-nous, il a encore suffisamment de graisse brune. Même si nous plaçons un pull dans le sac, il y a peu de chances pour qu'il le sorte tant que les autres n'en donneront pas le top départ. Il portera l'anorak et même le bonnet, dès que les leaders populaires de la cour de récré le feront. Pour qu'il n'attrape pas de rhume, mettons plutôt un bon câlin dans sa besace. Si nous nous surprenons à le houspiller avant son départ le matin, stop ! Et lançons-lui un affectueux « je t'aime » qui l'accompagnera et le protégera mieux que tous les pulls du monde. Elle se plaint d'avoir mal aux jambes. Si les médecins ne reconnaissent pas toujours la réalité de ces douleurs dites de croissance, les parents entendent leurs enfants s'en plaindre, surtout en fin de journée. On n'en connaît pas encore bien l'origine. Les douleurs sont décrites comme des crampes ou des brûlures intérieures irradiant dans les deux jambes entre le milieu de la cuisse et le tibia. 4% des garçons et 5% des filles en souffriraient plus ou moins fréquemment entre 6 et 14 ans, ces douleurs les réveillant parfois la nuit. Le meilleur antidouleur reste le contact chaleureux, car ce dernier libère des hormones de bien-être et de réconfort dans tout le corps. Nous ne pouvons pas toujours soulager la douleur. Parfois, même les antalgiques ne sont pas efficaces. Être entendu, sentir notre présence à ses côtés, être caressé, massé, l'aide énormément. Et ça fait du bien à la relation. Ses seins pointent. En 1900, en Occident, la puberté survenait vers 15-16 ans. Elle débute désormais dès 11 ans pour les filles et 12 pour les garçons. En cause, entre autres, l'alimentation et la sédentarité. En effet, l'hypothalamus enclenche le processus de transformation du corps dès que ce dernier dispose de réserves suffisantes de graisse. Joue aussi les perturbateurs endocriniens qui envahissent notre environnement, la quantité d'œstrogènes libérée dans l'eau de boisson et la multiplication des familles recomposées. Car entre autres facteurs, vivre avec son père biologique inhibe le déclenchement de la puberté. Limitons l'ingestion de pesticides dans son alimentation, les phtalates et le bisphénol. Et favorisons l'harmonie des relations avec son papa. Ce n'est pas simple d'être père ou beau-père face à une fille adolescente. L'homme peut craindre que ses gestes, ses regards soient interprétés. Il ne sait pas toujours ce qu'il peut et ne peut plus faire. Et il ne lui est pas facile d'en parler le premier. Alors, osons aborder le sujet en couple. L'ado aussi a besoin d'être écoutée. Elle est forcément ambivalente face à ce corps qui se transforme. Elle s'observe dans la glace, se compare à ses amis, subit des remarques au collège ou dans la rue. Les adultes de la famille, plus ou moins consciemment gênés par cette émergence de sexualité, peuvent être tentés de blaguer sur sa poitrine naissante. Parfois, redoutant une mauvaise interprétation, son papa ne la prend plus dans les bras. Il y a désormais une zone interdite au toucher sur sa poitrine. Tout ça, ça fait drôle. Pouvoir en parler, ça libère. Il veut toujours tout, tout de suite. Votre fils vient vous voir car il a quelque chose à vous demander.
Dis pas, tu me payes la nouvelle tablette iPad, c'est trop loin mon anniversaire.
Cette demande vous exaspère.
Oh non, tu exagères, tu es sans cesse à demander quelque chose.
Tous mes copains l'ont, de quoi j'ai l'air? Et puis papa, j'ai besoin que tu me montres que tu t'intéresses à moi.
Exiger, négocier, argumenter, insister sans cesse sont autant de comportements dus au cortisol, l'hormone du stress. L'enfant éprouve un malaise dans son corps. Il projette la perspective d'un soulagement sur un objet et le demande avec insistance. Son harcèlement n'est pas tant dû à la réelle importance de l'objet à ses yeux, mais au stress sous-jacent. Nous le savons bien, quand nous l'achetons trop vite, l'objet pourtant tant désiré reste parfois dans les placards. L'ado est d'autant plus demandeur qu'il manque de lien. Lui aurions-nous enseigné à associer amour et cadeau en lui en rapportant au retour de nos absences? Car il nous arrive parfois de tenter d'effacer ainsi notre culpabilité. Ne nous laissons pas hypnotiser à notre tour par le contenu de ce qu'il demande. Prêtons attention au processus de sa requête. Oui, il a absolument besoin, mais peut-être d'autre chose que ce qu'il demande. Quelque chose dont il n'est probablement pas conscient. Parlons ensemble de l'objet de son désir. Écoutons au-delà. Quel besoin pourrait s'exprimer par cette demande persistante? Affection? Liberté? Souci de cœur? Conflit? Désir d'être accepté par ses copains? En répondant d'abord à ce besoin sous-jacent, il se pourrait que la demande de surface s'éteigne. Elle veut un soutien-gorge. Un matin, votre fille formule une demande un peu spéciale.
Il va être temps de m'acheter un soutien-gorge, maman. Regarde, je suis une femme. J'ai honte quand on voit mes tétons à travers mon t-shirt.
Nous sommes si habitués à cet accessoire que son port nous paraît naturel, voire obligatoire. Il donne aux jeunes filles le sentiment d'accéder à un nouveau statut. Elles peuvent aussi avoir honte des bourgeons qui pointent sous leur t-shirt et suscitent des commentaires des garçons. Pourtant, le port du soutien-gorge n'est pas inoffensif. Non seulement le système musculaire de suspension s'atrophie, mais une corrélation a été établie entre le port d'un soutien-gorge serré plusieurs heures par jour et un risque accru de développer un cancer du sein. La compression limite la circulation de la lymphe, augmente la chaleur. La sécrétion de mélatonine diminue. La pression sociale est forte, mais en cherchant ensemble des informations, on peut l'aider à conserver une jolie poitrine toute sa vie. À son âge, un joli soutien-gorge à sa taille à porter à l'occasion peut-être, mais pas tous les jours et jamais la nuit. Si le soutien-gorge laisse une marque une fois ôté, c'est qu'il est trop serré. De plus, attention aux produits chimiques dans les tissus. Surtout, sortons du tout ou rien, oui ou non, au soutien-gorge pour répondre à son vrai besoin. Parler de cette transformation de son corps et de ce que cela modifie dans ses relations avec les autres.
Le sexe, très peu pour moi.
Avec votre femme, assis autour d'une table, vous décidez d'aborder avec votre fille plusieurs sujets très importants autour du sexe, mais elle semble se fermer et répond simplement « Les garçons, ça ne m'intéresse pas. »
J'ai pas envie de parler de ça avec vous. En même temps, j'aurais bien besoin d'en parler, mais c'est trop nul comment vous vous y prenez. Qu'est-ce que vous êtes coincé ?
Le branle-bas des hormones n'a pas encore démarré, mais ça la travaille déjà. Peut-on satisfaire sa curiosité avec ses parents ? Il n'est pas simple de parler avec eux de quelque chose d'aussi intime que le sexe. Si de plus, l'adulte a une histoire personnelle un peu compliquée autour de la sexualité, il peut avoir tendance à se montrer rigide et solennel et à n'aborder que l'aspect protection, ce qui n'aide pas à la communication. Le sexe, parlons-en. Faute d'avoir discuté de ces choses-là avec des adultes et de posséder les informations nécessaires, nombre d'ados se croient amoureux dès qu'ils éprouvent du désir physique. Nombre de stars font aussi les frais des projections amoureuses adolescentes, idéalisation, transfert, désir. Les ados peuvent se penser amoureux alors qu'ils n'ont jamais rencontré la personne. Ils ont besoin d'informations sur l'amour, les émotions, le sexe, le désir, la relation et de ne pas tout mélanger. Le plus important est qu'elles puissent venir nous parler. Or, si nous plaçons nos interventions sous l'angle de la morale, si nous associons la sexualité à la honte, elle gardera ses secrets et peut davantage avoir une conduite à risque. Nous pouvons lui indiquer des liens vers des sites fournissant des informations sur la sexualité, le clitoris, l'orgasme, susceptibles de satisfaire sa curiosité et peut-être même participer ensemble à un atelier. Elle n'aime pas que je parle d'elle. Alors que vous prenez un café avec une amie, vous vous mettez à raconter une anecdote sur votre fille. Nadège aime bien, blablabla, et elle m'a dit, blablabla. Votre fille passe dans la pièce au même moment et a entendu que vous parlez d'elle. Elle s'agace. « Ne raconte pas ma vie !» Ce qui vous amuse. « Oh, ma petite fille fait ça sensible !» Les parents aiment parler de leurs enfants, raconter leurs dernières frasques ou simplement évoquer leur succès. Mais entendre parler de soi à la troisième personne est désagréable, surtout quand on commence à vouloir exister en tant qu'individu. À cet âge des premières prises de distance avec les parents, la pré-ado est sensible à toute intrusion. Oui, c'est notre fille. Le pronom est grammaticalement dit possessif et il souligne le lien d'appartenance à la famille, la connexion, mais ce n'est pas un possessif. Sa vie ne nous appartient pas, même si nous l'avons mise au monde. Et elle a besoin de la conjuguer à la première personne du singulier. Qui est plus important ? Ne laissons pas la gêne d'avoir été remise en place en public par notre préado altérer notre relation. Osons reconnaître nos erreurs, mesurer la blessure infligée, la trahison et l'intrusion ressentie et réparer la relation. Inutile de se mettre à marcher sur des œufs. Il nous arrivera immanquablement de transgresser à nouveau, et ce n'est pas grave. Nous pouvons lui faire confiance. Elle nous le rappellera. Il n'est pas inutile qu'elle ait ainsi à s'affirmer pour dresser les frontières de son identité et de son intimité.
Les filles, c'est nul.
Mais ça m'intéresse vachement.
L'intérêt pour la sexualité est naturel, mais la timidité est encore grande. C'est peut-être vrai que les filles ne l'intéressent pas encore, mais la sexualité, oui. Regarder de la pornographie, c'est ne plus être idiot, c'est savoir de quoi on parle, et puis ça valorise. C'est interdit, c'est excitant, et tous les copains le font. Si on ne veut pas, on est la risée des autres. En revanche, regarder du porno en classe d'informatique sur l'ordi du collège, au nez et à la barbe du prof, ça gagne des points de popularité. 82% des 11-13 ans ont déjà visionné une image ou une vidéo porno sur Internet. Plus de 8 jeunes entre 11 et 13 ans sur 10 ont déjà vu au moins une image pornographique sur Internet, selon un sondage de l'association Callisto, 2009-2010. En 2015, un Français a en moyenne 11 ans lorsqu'il est exposé pour la première fois à du contenu pornographique en ligne. 100% des pré-ados ont vu ou verront des images pornographiques. 21% des garçons pensent que les films X représentent fidèlement ce que sont les relations sexuelles. 10% des visiteurs de sites pornographiques ont moins de 10 ans. Installer un contrôle parental sur tous les outils électroniques est utile, mais ne nous voilons pas la face. L'exposition à la pornographie sur Internet est inévitable. Au lieu de nous en offusquer et de nous draper dans l'idée que notre chérubin ne regardera jamais ces horreurs parce que nous le lui avons interdit, abordons plutôt le sujet avec lui à l'aide de questions ouvertes et équipons-le de ressources. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des vidéos de sexe ? Oui, ça fait des sensations dans le bas-ventre, c'est de l'excitation sexuelle. Et tu te sens un peu mal à l'aise aussi. Dis-m'en plus. Qu'est-ce que tu te dis ? Etc. Mettre des mots sur ce qu'il vit l'aidera à ne pas être hypnotisé par ces images. Aidons-le aussi à découvrir que ces images sont fabriquées dans un but commercial et ne représentent pas la réalité des relations sexuelles. Et notons qu'il a besoin non seulement d'informations sur la sexualité, mais de savoir quoi faire avec cette excitation dans son bas-ventre.